la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Nous commençons cette année 2024 avec la Maison Théâtre des Littératures à voix haute et sa saison 19 déjà. Et pour nous en parler, comme d'habitude, Denis Lanois. Bonjour Denis.
Bonjour et bonne année à toutes les auditrices et tous les auditeurs.
Alors, nous allons parler que du mois de février qui est très chargé. On a le droit de fêter les vœux jusqu'au 31 janvier, donc ça va, on est dans les clous, comme on dit. Un programme très chargé et comme d'habitude, il y a bien sûr une dédicace dans cette saison 19 et la dédicataire est Jeanne Galzy. Alors, vous nous la présentez, Denis ?
Oh ben, quelques mots sur Jeanne Galzy. On aura l'occasion le 7 mars de lui rendre hommage en deux temps avec une lecture de Emma Morin, d'extraits de textes et de poèmes de Jeanne Galzy et puis surtout une micro-conférence avec Raymond Huard, qui est un historien bien connu, historien et...
Oui, qu'on a eu à notre micro.
J'en doute absolument pas. spécialiste, entre autres, de la politique au cours du 19e, de l'histoire des partis politiques au cours du 19e et 20e siècle. Professeur honoraire de l'université Paul Valéry, mais surtout, il a écrit un livre sur Jeanne Galzy, qui est une écrivaine originaire de Montpellier, qui s'est mis à écrire assez tard dans sa vie, mais aurait pu sans aucun doute être reconnue comme une des plus grandes écrivaines du XXe siècle. Et on essaye de lui rendre hommage parce qu'elle fait partie de ces grandes figures de la littérature du XXe siècle, un peu oubliées. Alors,
c'était une femme ?
Non, parce que je ne pense pas que ça soit la raison, parce que des femmes de sa génération, comme Marguerite Yourcenar, et juste un tout petit peu après Marguerite Duras, ont eu la reconnaissance qu'elle aurait sans doute méritée. Non, c'est juste un parcours de vie qui fait qu'en restant à Montpellier, à ce moment-là, la vie littéraire était vraiment extraordinairement concentrée à Paris. Au début du XXe siècle encore, malheureusement, c'est moins vrai aujourd'hui. Donc je pense que c'est une des raisons. Et, c'est une femme assez exemplaire, c'est la première femme à avoir enseigné dans un lycée. Mm-hmm. C'est pas rien quand même.
C'est pas rien. Ouais, j'imagine la tête de ses collègues masculins.
Oui, siècle plus tard, voilà. Heureusement, ça a un peu changé. Souhaitons que ça ne revienne pas en arrière.
Alors, La première journée, le jeudi 1er février, c'est une soirée hommage à une autre femme, elle bien connue, Albertine Sarrazin. C'est une lecture par Bruno Paterno. Alors, Albertine Sarrazin, elle est connue. Et comment vous avez fabriqué cet hommage ? Parce que c'est compliqué, elle a tellement écrit.
Absolument, bah oui. Alors après... Il y a eu un choix fait par Bruno, parce que moi je ne serai pas là ce soir-là, parce que je serai ailleurs, on en parlera après. Ce qui est finalement assez simple, Albertine Sarrazin a eu l'occasion de passer à Nîmes, elle a écrit des textes sur ce passage à Nîmes, et donc ben voilà, on a choisi de faire entendre ces extraits où il est, alors pas uniquement, mais très, très majoritairement question de Nîmes et de sa relation et de son passage à Nîmes. Mmh. Donc là encore, une figure littéraire, là aussi. Alors, pas vraiment... Elle a quand même, elle, eu une belle reconnaissance parce que, bon, entre autres, un de ses romans très connus, L'Astragale,
a été
adapté au cinéma à plusieurs reprises, pour la télévision aussi. Donc, elle a eu la reconnaissance. Maintenant, c'est effectivement...
C'était un peu réducteur tout de même. Hein. On voyait toujours l'évasion, en fait.
Oui, c'est ça. toujours son histoire singulière, hein, cette histoire de cette femme qui s'échappe de la prison et qui est en cavale. Donc c'est...
Et là, vous préférez vraiment donner l'accès à l'écrivaine.
L'écrivaine, quoi. Parce que c'est véritablement une écrivaine. C'est une grande plume du XXe siècle. Et c'est important de réhabiliter ça. C'est pas parce qu'à un moment donné, on fait... on fait acte de présence au monde par un fait divers et parce que voilà, c'est pas parce qu'on est délinquant qu'on peut pas être poète en même temps. Ouais. On a de beaux exemples dans la littérature française, par exemple François Villon.
Oui, c'est pas d'hier.
C'est pas d'hier, mais c'est un voyou et un voyou sympathique et un immense poète parce que un des poètes, sans doute un des poètes fondateurs de la langue française et de la poésie française. On remonte au Moyen-Âge, certes, mais...
On voit toujours votre amour justement de la langue à travers les siècles et c'est vraiment le but, l'objectif de la Maison Théâtre des Littératures à Voix Haute que vous avez créée. C'est la 19e saison. Je rappelle, mais tout le monde le sait, 26 rue de la République, il faut réserver ses places au 06 17 53 02 60. Et vous avez dit que vous ne seriez pas là parce que vous faites plusieurs événements autour de l'étoile de Bessèges, qui est une course cycliste, pour ceux qui ne savent pas. Et j'ai beaucoup aimé, quand je vous ai dit, mais pourquoi l'étoile de Bessèges? Vous avez concocté des étapes cyclo-littéraires, 1er, 2 et 3 février.
C'est ça.
Vous allez nous en parler.
Alors, juste un petit mot sur l'étoile de Bessèges, c'est une course historique, c'est vraiment une course qui existe depuis très 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 longtemps. Maintenant, c'est l'étoile de Bessèges, le Tour du Gard. Donc, c'est vraiment
ça a changé de nom.
Ça, c'est quelque chose d'important pour
Marguerite, Rousson, Bessèges, Méjeanne Le Clap, la Grande Combe, Nîmes.
C'est ça. Et alors ça, c'est nous allons faire les étapes, mais par exemple le samedi 4, ça sera aussi à Alès, puisque la dernière étape est toujours un contre-la-montre qui se déroule à Alès et assez spectaculaire d'ailleurs parce que c'est dans la montée de Rochebelle et donc pour aller à l'Ermitage et c'est un gros effort que fournissent les coureurs à ce moment-là. Mais la raison d'être de ça, c'est aussi le cyclisme, donc c'est la première course professionnelle de la saison. C'est toujours saison professionnelle des courses d'une année commence toujours par l'étoile de Bessèges. Et donc avec des coureurs très prestigieux
au palmarès. Oui, c'est pas que local, ça a une renommée.
Non, c'est vraiment il y a des grandes équipes internationales qui viennent et puis il y a des grands champions qui seront sur les routes du Gard, mais il y a dans le passé parmi les vainqueurs, il y a vraiment des grands noms du cyclisme.
Je savais pas que vous étiez passionné de cyclisme, Denis.
Le cyclisme, c'est pas que je pratique le vélo, mais c'est que je trouve que l'effort que fournissent les cyclistes, les sportifs,
est assez
extraordinaire. Et c'est en bien des points, c'est très proche des pratiques des écrivains et de la relation qu'ils peuvent avoir à l'effort et à la fois au dépassement de soi par moment que suppose et l'écriture. Alors le cyclisme, évidemment, là, on comprend ce que ça veut dire la notion de dépassement de soi. Mais donc, j'ai proposé et ça a été accepté par la direction de la course et par le conseil départemental du Gard, puisque maintenant ça s'appelle le Tour du Gard, l'étoile de Bessèges Tour du Gard, de mêler justement littérature et cyclisme. Et donc, j'ai demandé à Jean-Emmanuel Ducoin, qui est un écrivain qui a écrit plusieurs textes sur le cyclisme, et en particulier qui a co-écrit des biographies avec Cyril Guimard et Laurent Fignon.
Et
quand on dit co-écrit, c'est surtout que c'est lui qui a écrit sans aucun doute le texte, mais la matière, c'est quand même la vie de ces deux grands champions. Et directeur d'équipe pour Cyril Guimard. Et donc, il est en même temps chroniqueur au journal L'Humanité. C'est lui qui fait la recension tous les ans depuis 1989, pour le journal, au jour le jour du Tour de France.
Ah, d'accord.
Donc il est très connu. C'est vraiment un spécialiste du cyclisme.
Oui, vous avez mis la belle échappée des mots en course et vous avez dit après les mots pour décrire et plonger dans l'intime du cyclisme, un défi à partager.
Tout à fait, c'est tout à fait ça, puisqu'il connaît vraiment parfaitement l'univers du cyclisme. Il est très connu également par les cyclistes.
C'est une chance de l'avoir.
C'est une chance de l'avoir et on l'a donc pendant plusieurs jours. On est là avec lui le 1er, le 2 et le 3 et on va faire toutes les étapes. C'est-à-dire le 1er, on sera au départ à Marguerite. Ouais. Nous rencontrons pour une première lecture en milieu de matinée un groupe d'élèves du collège de Marguerite. Puis ensuite des vétérans qui pratiquent le cyclisme
intergénérationnel
dans des clubs de cyclisme. Et le soir, le premier, nous serons à Rousson, où après la remise des prix et des médailles de officielles par à la fois l'organisation de la course et la municipalité qui accueille, on fera un temps de lecture et rencontre avec Jean-Emmanuel Ducoing. Dans l'après-midi, on sera passé au collège de Bessèges. Le lendemain, on est à Nîmes à 19h, cette fois aussi pour une rencontre lecture avec Jean-Emmanuel Ducoing
au
Prolet. Et puis, le vendredi, nous serons, donc le 3,
à
Méjeanne Le Clap. À Méjeanne Le Clap, c'est une étape. Le départ est à Méjeanne et l'arrivée à Méjeanne au centre sportif départemental. Mmh. Et là, juste après le départ et le premier passage, parce que les coureurs font plusieurs boucles, nous ferons une lecture rencontre aussi, parce qu'il y aura beaucoup de clubs qui seront là pour assister au départ et au passage des coureurs. Et entre le départ et le passage, on leur offrira un temps de lecture et rencontre avec l'auteur et dédicace. Et ensuite, nous irons
À
la Grande Combe, à la médiathèque à 17h30 pour une
dernière
rencontre.
Alors je comprends mieux pourquoi vous avez appelé ça des étapes cyclo-littéraires, et je trouve que c'est une très très belle idée justement de... Vous disiez on peut être voyou et poète, on peut être...
Cycliste et poète.
Écrivain et cycliste.
Il y a beaucoup d'écrivains qui d'ailleurs pratiquent le vélo, on le sait assez peu. Mais évidemment pas tous, parce que ça serait très caricatural de dire que tous les écrivains s'intéressent. Mais en tous les cas, moi j'en connais beaucoup qui vraiment ont une passion pour... Et puis, il y a dans l'histoire de la littérature, il y a quand même quelques grands... texte. Il y a Albert Londres, Les Forçats de la route, qui est
bien
quand même
sûr.
Un texte référence par rapport au cyclisme, par rapport au premier Tour de France. Il y a des choses qu'on connaît un peu moins. Alfred Jarry était un passionné de vélo. Mm-hmm. Il a écrit des textes sur le vélo absolument étonnants. Mm-hmm. Et lui-même fabriquait ses vélos. Et on peut imaginer les vélos d'Alfred Jarry, quelquefois, étaient un peu exubérants, un peu curieux.
Les roues n'étaient pas rondes.
C'est presque ça.
C'est presque ça. Ah, bah c'est de l'art abstrait, en fait. C'est du cubisme. Je repense aussi à la pièce de Jean Carrière sur le cyclisme.
Absolument. Oui, oui,
où la mise en scène.
Oui, c'est ça.
Avec le vélo. Vous avez dans votre livret de la saison 19 un extrait que vous avez choisi, bien sûr, de Jean-Emmanuel Ducoing, et je lis que la dernière phrase. « Durer, rester, course contre l'oubli, contre le temps, course contre soi-même, une carrière, une vie. Le vélo dit tout du caractère des hommes ?» Point d'interrogation. « Le vélo a-t-il tout dit sur moi ?» Donc, on imagine que ça va être... passionnant. Et étape cyclo-littéraire, alors on s'est dit qui a chanté le vélo, vous nous avez parlé qui l'a écrit, et on a choisi presque tout de suite Yves Montand.
Oui. Ça nous est venu vite à l'esprit. Mais...
À bicyclette d'Yves Montand.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur, à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Alors sur Radio Alliance Plus, après avoir écouté Yves Montand à bicyclette, c'est une mélodie très, très agréable. On aime ou on n'aime pas Yves Montand, mais c'est vrai que c'est toute une époque.
Moi, oui, ça... C'est un peu de nostalgie parce que c'est pas vraiment cette espèce de mélodie un peu enfin comme un bruit de chaîne ou de roue, enfin c'est plus vraiment le son que font les vélos aujourd'hui, donc c'est
y a ça un fait petit un peu front populaire.
Oui, mais ça c'est intéressant parce que le cyclisme est un sport populaire. Le cyclisme est un sport populaire pour plusieurs raisons, parce que on est très majoritairement tous montés ou toutes montées sur un vélo à un moment donné dans sa vie. Et puis pour certains, c'est devenu une passion, pour d'autres, un moyen de transport. Et de plus en plus, je pense que le vélo aussi reprend
un choix environnemental.
C'est aussi un choix à faire, environnemental, effectivement. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose de très populaire. La course cycliste est quelque chose de très populaire, ce qui suppose une espèce, oui, il y a un esprit kermesse dans le cyclisme.
Alors, on le voit chaque année, les gens le long des routes.
Oui, alors c'est là où c'est intéressant, par exemple, l'analyse de Jean-Emmanuel Ducoing. On voit bien, parce qu'il a écrit un livre sur Lance Armstrong, dans lequel il décrit effectivement qu'il assiste, lui, en tant que journaliste, qui s'intéresse au cyclisme et qui écrit sur le cyclisme tout au fil des ans, depuis 1989. Donc, et il assiste au basculement d'un monde, c'est-à-dire de passer de cet esprit un peu festif, kermesse, etc., il y a un peu de folie, à quelque chose qui n'est plus du
très
tout la
commercial.
Folie, qui devient très consumériste, très organisé, où le seul objectif, c'est le profit, c'est même pas la victoire, ce qui est assez singulier. Il s'agit pas
combien
vais-je gagner,
c'est d'argent.
C'est l'objectif n'est pas forcément la victoire en tant que telle. Donc il assiste ça à ce que d'autres disent la professionnalisation du cyclisme.
Ça va de pair aussi avec un dopage de plus en plus.
C'est ça, évidemment, puisque là c'est la course folle au profit. Donc et tout ça c'est un basculement général de toute une société. Donc c'est intéressant au travers du cyclisme. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui changent en profondeur, et malgré cela, ça reste quand même quelque chose pour lequel il y a de l'engouement populaire. Et moi, ça m'intéresse parce que
c'est un lieu où on peut se retrouver, quelle que soit la classe sociale, un lieu de partage, d'échange,
comme souvent le sport quand même, souvent le sport quand on voit les sports collectifs.
Oui.
Les sports collectifs. Quand on voit les sports collectifs, c'est le rugby, le football, il y a beaucoup de possibles. Maintenant, une fois encore, ça ça, on atteint des limites avec quand l'objectif est plus, a plus de rapport avec l'objet, en fait.
Ouais. Bah, quand on voit, on pourrait parler d'autres sports, hein, quand on voit enfin, les salaires de certains footballeurs, bon, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi.
Mais l'intérêt populaire, c'est pouvoir dire aussi, voilà, de surprendre aussi, parce que la littérature, malgré tout, est quelque chose, même si on... Parfois, on peut en douter, la littérature est populaire parce que elle peut être le vecteur le plus simple pour être entre nous avec un art. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose d'un peu archaïque dans la poésie et la littérature. C'est-à-dire que c'est juste un texte écrit qu'il suffit de lire, ce qui n'est pas...
Oui, qui est accessible à tous.
Dans l'absolu, absolument accessible à tous.
Et puis, je répète, c'est votre décision, quand vous avez créé cette maison théâtre des littératures à voix haute, de vraiment rendre la littérature accessible à tous.
Et donc là, c'est dire, oui, voilà, on peut aussi être passionné de cyclisme et puis se rendre compte qu'il y a de belles choses qui sont dites et écrites sur le cyclisme et sans en faire, voilà, on fera pas plus que ce qu'on fait, mais de se rendre compte que quand quelqu'un décide d'écrire comme Jean-Emmanuel Ducoing, avec savoir-faire, mais aussi avec beaucoup de tact et d'émotion, on touche à des choses très profondes. Le texte sur Laurent Fignon est vraiment splendide.
Oui, j'ai lu qu'un court extrait, mais c'est vrai que là, j'ai devant les yeux l'extrait plus long et on se dit, c'est vraiment de la littérature et merci de nous faire connaître justement des auteurs auxquels on n'aurait peut-être jamais pensé, parce que c'est vrai qu'on est souvent réducteur. J'aime pas le cyclisme, enfin, j'aime pas, je m'intéresse pas, donc je lis pas. J'aime pas le foot, donc je lis pas. Donc, faire réfléchir. Alors, cette étoile de Bessèges, c'est une étape très importante, justement, pour cette saison 19. C'est pour ça qu'on va consacrer cette émission qu'au mois de février. Il nous reste deux soirées, celle du 8 avec Philippe Forgeot et celle du 29 février, puisque c'est une année bissextile, avec Sylvain Levet. Alors, on parle de celle du 8 février, c'est une fantaisie littéraire. Il y a des agaceries, il y a des fantaisies. Là, c'est une fantaisie littéraire avec Théo Kermel. C'est ça, c'est lui qui va lire.
Oui, c'est Théo Kermel qui lira. Alors, c'est une saison où il y a on a programmé pas mal d'écrivains de théâtre cette saison. Il y a un éclairage un peu particulier sur les écrivains de théâtre. En tout, il y en aura trois sur toute la saison. Donc, ça veut dire que c'est un fort pourcentage. Et donc là, il y en aura deux qui vont se succéder, Philippe Forgeot et Sylvain Levet, le 8 et le 29 après les vacances scolaires, 29 février. Ils ont un lien, tous les deux, malgré tout, c'est que les deux... sont au programme d'une compagnie de théâtre qui est installée à Millau dans l'Aveyron et qui ont mis en scène, Sylvain Levet, ont mis en scène un de ses textes qui d'ailleurs est joué le 19 février proposé par les Étapes Édonymes le 19 février et dans une mise en scène de Philippe Flahaut. Et le même Philippe Flahaut met en scène le prochain texte de Philippe Forgeot en mars prochain avec justement Théo Kerviel. Le lien est fait. Et le 8 février, nous avons la chance de pouvoir avoir ce texte inédit lu par l'acteur qui va le jouer et l'interpréter. C'est une expérience très particulière et singulière parce que Théo Kerviel est un comédien autiste. Et le texte a été écrit exprès pour lui.
Ah, d'accord.
Donc, c'est tout à fait émouvant.
Il joue depuis longtemps, Théo Kermel ?
Alors, il joue depuis pas mal d'années avec la compagnie que dirige Philippe Forgeot. Et Philippe Flahaut, pardon, pas Philippe Forgeot qui est l'écrivain, mais Philippe Flahaut, le metteur en scène, et qui a découvert ce talent lors d'un atelier et puis l'a aidé à se former et c'est devenu un acteur important de la région Occitanie.
C'est vraiment une façon d'inclure justement le handicap dans la vie littéraire, théâtrale. Et donc Théo Kermel fait le lien entre les deux soirées, celle du du 8 et celle du 28 février.
29. C'est une petite 29. Coquille.
Ah, il y a une petite coquille. 29
petite
février.
Coquille, c'est le 29.
Alors, le premier texte de Sylvain Levet s'appelle Wasmok. Ça veut dire quoi?
Faudra lui poser la question le soir où il viendra.
Bon, d'accord. Bon, ben, suspense.
Sylvain, c'est un écrivain qui a beaucoup écrit pour les enfants, pour les adolescents, et qui s'amuse avec les mots. Et le Wasmok, voilà, ouais. on peut entendre plein de choses, et il travaille sur justement sur les alors à la fois les défauts de langage, mais qui en sont pas, parce que dans ces défauts de langage, d'un seul coup il y a une création de langage, justement, une création de langue, et donc il s'amuse beaucoup avec ça. Et
oui, je vois le Plicolidrame en 2011, oui. Sans culotte et sans papier, sans CENT,
voilà.
Et sans papier, SANS. Ouais. Donc, c'est vraiment le jeu de mots.
Oui, il joue vraiment sur la langue, et puis sur les écarts que peuvent provoquer parfois des incompréhensions, ou simplement les accents, les langues étrangères, enfin, ce qu'on appelle être une langue étrangère. Mmh. C'est-à-dire. Oui, bah, il suffit. La langue étrangère, c'est quelquefois. Dans un même espace, oui, on est confronté à une langue étrangère. Parce que on n'est pas du même monde, alors qu'on vit dans le même endroit. Et ça, c'est tout à fait passionnant, parce que c'est comme ça qu'est le monde aujourd'hui. C'est un monde métissé, et c'est un monde, un tout monde, comme dit Édouard Glissant, où il est un monde pluriel. Et cette créolisation de la langue, elle profite à la langue, parce que ça fait que la langue continue
évolue,
d'être une création qui répond au monde. Et ça, on en est aujourd'hui vraiment besoin, parce que c'est pas dans le renfermement sur soi que, quand on se renferme, on s'appauvrit. En fait.
Ben merci Denis de nous avoir présenté donc ce mois de février de la saison 19, donc il y a le petit livret. Il y a le Facebook, hein, où on a toutes les informations. Je rappelle que c'est tout de même petit, une cinquantaine de places, donc réservé 06 17 53 02 60. Et on se retrouve pour que vous nous présentiez le mois de mars, qui est aussi chargé que le mois de février. À très bientôt.
À très bientôt.
Merci.
Partagez vos événements avec nos auditeurs en nous écrivant à agenda@radioalliance-plus.fr.